14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio, nous allons passer ces deux heures ensemble. Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Alors maintenant, c'est pas face à son miroir qu'on demande si on est beau, mais face à son téléphone portable. Et oui, on communique par photo, comme si l'image maintenant était plus importante que les mots. Certains disent que c'est parce que nous sommes tous devenus plus narcissiques. Alors c'est peut-être la première question que je vais poser à mon invitée Sophie Cadalen, qui est avec nous durant ces deux heures. Mais bien sûr, le narcissisme, ça a aussi du bon. Alors peut-être qu'il faudrait apprendre à communiquer aussi par le langage. Je ne crois pas qu'une photo puisse remplacer un long discours. En tout cas, les selfies ont pris le pouvoir. Est-ce que c'est mieux ou pas? On va l'évoquer ensemble et puis on verra également pourquoi les jeunes adolescents ont tendance à utiliser de plus en plus les selfies, les photos et de moins en moins les mots que leur aînés. Et puis c'est vrai qu'à force, on appauvrit notre langage et c'est peut-être un peu dommage. Le juste milieu, voilà, on va essayer comme tous les jours de trouver ce juste milieu. En tout cas, je vous invite à venir témoigner. Et puis moi, j'avoue que j'ai un peu la nostalgie des lettres d'amour. C'était quand même pas mal de recevoir une lettre d'amour que l'on garde précieusement et qui vieillit au fil du temps. Bref. Bon, en tout cas, si vous préférez les SMS et les selfies, vous avez bien sûr la possibilité de réagir sur Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Sophie Cadalen.
Bonjour Brigitte.
Alors vous avez remarqué, hein, on communique de plus en plus par SMS, par selfie, un peu par mail, mais... Alors, ça vient de quoi, ça?
Bah déjà, l'outil nouveau, la possibilité d'eux, qui dit bien que ça, communiquer, on cherche à le faire toujours, à être en relation, à être aimé, peut-être aussi, peut-être tout simplement, très, très archaïquement. Et pourquoi dans l'image? Parce qu'elle est possible, l'image. Et on cherche à se cerner. Je crois que c'est une quête de l'individu tout le temps. Qui suis-je? De quoi ai-je l'air? Comment est-ce qu'on me voit? Ce qui est une question à l'impossible réponse. C'est-à-dire, comment on me voit? Je ne sais pas. On ne se verra jamais comme les autres nous voient. On peut se figer devant le miroir. C'est pas comme on est, en fait, en réalité. Comme on est en action, en mouvement, quand on parle. Donc, je crois qu'il y a une tentative de maîtrise de cette image. On la prépare, on la peaufine, on la présente aux autres. Et on se donne, de fait, en pâture aux autres aussi.
Mais vous voulez dire que ce besoin de se voir, de se montrer, hein, puisque finalement, quand on envoie un selfie, on a tendance plutôt à se montrer que à se regarder soi-même, c'est depuis toujours, sauf qu'avant, on n'avait pas les outils, c'est ça?
Je pense que depuis toujours, on cherche à exister par rapport aux autres. On cherche à maîtriser un personnage par rapport aux autres. Alors, effectivement, l'image n'était pas si présente, les outils n'existaient pas. Donc, ça se passait autrement. Ça se passait dans... Alors, effectivement, ça dépendait des milieux, ça dépendait des métiers, ça dépendait des fortunes, si je puis dire, des cultures aussi, évidemment. Mais voilà, comment l'autre me voit, je crois que c'est une question existentielle très, très puissante. Mais qui n'en passait pas forcément par l'image, mais par qu'est-ce qu'on dit de moi, comment est-ce qu'on me considère, comment est-ce qu'on me perçoit, est-ce qu'on m'aime? Encore une fois, la question fondamentale, elle est là.
Alors, en préparant l'émission, j'ai vu plusieurs comme ça enquêtes, réflexions qui disent c'est parce que on est de plus en plus narcissique et c'est pour ça que on fait autant de selfies. C'est pour ça que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Je sais pas. Je suis pas sûre parce que vous l'avez dit très justement en introduction. Le narcissisme, qui est entendu comme un gros mot, il y a du bon aussi. C'est important d'exister.
Peut-être redéfinir déjà ce qu'est le narcissisme, Sophie Cadalen.
Définition, effectivement, on utilise tellement ce mot. Comment le définir? Le narcissisme,
c'est aimer son image.
En tout cas, comment on s'aime soi. Voilà, comment on se considère soi. Alors, effectivement, on peut s'aimer tellement soi, et ça, c'est l'histoire de Narcisse qui, à force de regarder son reflet dans le miroir, se noie. Enfin, dans le miroir. Dans l'eau qui fait miroir. Donc, il s'y noie. Donc, il y a la nécessité, effectivement, au moins, d'affronter peut-être même et d'appréhender son image, mais si on s'y perd, si on s'y noie, si on en oublie effectivement que les autres existent, ça n'est pas très intéressant. Mais si on s'oublie totalement aussi, ça n'est pas très intéressant non plus. Donc là où le narcissisme, effectivement, en tout cas cette envie de se montrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, oui, il y a un côté je me regarde moi, je me regarde me regardant, presque, c'est la photo qu'on a prise de soi et qu'on envoie à tout le monde, qu'on montre à tout le monde. Mais encore une fois, là où c'est pas si narcissique que ça et que ça me semble peut-être encore plus dangereux, c'est se donner en pâture. C'est dire aux autres, regardez-moi, faites-moi exister. Parce que c'est prendre aussi le risque que les autres vous commentent. Et ne vous commandent pas forcément de manière bienveillante.
Oui, c'est pas toujours des likes.
Ben non, pas toujours.
Alors, on sait que pour les adolescents, c'est devenu presque extrême, ils y sont même à se photographier, par exemple, le sexe et à s'envoyer justement des selfies de leur sexe. C'est une dérive qui fait peur à certains psy, certains de vos copains d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je dirais que la dérive, c'est pas tant de photographier son sexe, je crois, et Brigitte, je crois que vous ne me contradirez pas, c'est qu'autour de la sexualité et de l'érotisme, on a envie de tout essayer, et tous les outils vont être mis au service aussi de l'érotisme, de l'imaginaire, de la fantasmagorie. Maintenant, c'est comment on l'utilise, à quel âge on l'utilise, quel usage on en fait, qu'est-ce qu'on donne de soi, effectivement, encore une fois, qu'on offre, qu'on remet aux autres, dont ils peuvent faire un usage qui va nous échapper, c'est ça qui est dangereux. Et c'est aussi une façon, on sait bien, les garçons, c'est une obsession qu'ils ont très souvent, de est-ce que mon sexe, effectivement, est comme il faut, est-ce qu'il te plaît, est-ce qu'il est assez gros, enfin, c'est une grande question.
Il y a même des hommes politiques qui le photographient, alors.
Exactement. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, on est particulièrement vulnérable, on est particulièrement incertain, on est particulièrement fragile, donc c'est ça qui est compliqué, c'est dans l'image de soi, c'est pas tant la photo en soi, c'est pas tant, c'est l'intimité qu'on ne sait pas protéger, c'est l'intimité, encore une fois, qu'on diffuse, c'est le pouvoir qu'on donne à l'autre, aux autres, de nous juger, de nous commenter, de nous approuver, c'est ça qui est dangereux.
Et c'est là où on voit qu'il y a finalement des adolescents qui vont très bien, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi beaucoup d'adolescents qui ne vont pas bien, et on peut imaginer que derrière, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été suffisamment protégés par les parents, parce que au fond, envoyer une photo de soi, les seins nus ou le sexe à tous ses copains, copines, c'est évidemment quelque chose qui dérape, enfin voilà.
Oui, si on le fait, alors la plupart du temps, là où justement ça donne des conséquences dramatiques, c'est quand on a envoyé une personne qui l'a diffusée à plein d'autres personnes.
Ça c'est encore autre chose, oui.
Voilà, donc oui, de toute façon, à partir du moment où on s'expose comme ça de manière si inconséquente, qu'on veut exister à tout prix, c'est qu'il y a un problème, effectivement. Alors, effectivement, l'adolescence, c'est le moment du tâtonnement, du dérangement, du bouleversement, d'une certaine incertitude. On en a toute notre vie, hein, des incertitudes. Mais alors, après, oui, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est, justement, nos périodes d'isolement dues au Covid? Enfin, il y a plein de choses qui font qu'ils peuvent se regrouper sur cette période, avec, évidemment, les premiers émois sexuels, qui font qu'on fait n'importe quoi, effectivement, à ce moment-là.
On pourra peut-être aussi, durant ces deux heures, évoquer, Sophie Cadalen, la manière dont certaines personnes, par exemple, se quittent en envoyant juste un SMS ou ne donnent absolument plus de réponse. On voit bien quelque part que cette manière de communiquer par les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, elle est parfois à l'image d'une société où, au fond, on ne sait plus très bien respecter l'autre et en final, se respecter.
Oui, est-ce que c'est dû à notre société? C'est de ça dont je doute. Il me semble que tous les outils nouveaux, tous les modes effectivement d'échange et de relations nouveaux vont éclairer effectivement nos difficultés à être. Pour certains, nos difficultés peut-être aussi à être vis-à-vis de l'autre, nos difficultés à prendre en compte l'autre. Ça va pas de soi. D'exister soi, d'exister par rapport à un autre. Alors ça se déguise de manière différente, ça peut se traduire par des comportements tout à fait grossiers que tout le monde connaît, que tout le monde a vu autour de soi. Mais c'est vrai que l'outil, avec sa possibilité de réaction, de réponse, de communication, va révéler, là encore une fois de manière très violente, la difficulté à communiquer.
Et alors il y a une enquête qui vient des États-Unis, hein, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que les États-Unis c'est quand même pas tout à fait la France, mais les jeunes font moins l'amour, il y a moins de relations sexuelles et ça c'est vrai aussi en France, hein, mais en revanche l'enquête aux États-Unis semblerait prouver que c'est à cause de Netflix et des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens passant beaucoup de temps sur Netflix et sur les réseaux sociaux, n'ont plus le temps de se rencontrer et donc de faire l'amour.
Alors, ça, pareil, je dirais comme vous, je n'en sais rien, je ne suis pas enquêtrice ni sociologue. Mais par contre, quelque chose est clair, c'est qu'il y a de l'ordre du remplissage, de l'addiction, de la fascination au sens d'être aspiré par quelque chose. On connaît ça avec les écrans. Alors, Netflix, avec sa proposition de séries, de films, on est très occupé par tout ça. Or, effectivement, pour pouvoir être en relation avec l'autre, pour pouvoir le rencontrer, il faut avoir la disponibilité de ça. J'allais dire être un peu désœuvré. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, c'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on va rencontrer l'autre, mais parce qu'on n'est pas tout le temps occupé à quelque chose qui nous absorbe et qui nous prend tout entier. C'est vrai, quand on regarde un film, on est complètement pris. Alors, en plus, une série qui a plusieurs épisodes et qui vont nous prendre un petit bout de temps. Et en même temps, c'est toujours tentant. C'est aussi pour ça que les gens sont sur leur téléphone incessamment.
Bien sûr.
Ça occupe. Et il y a bien quelque chose qui nous fait peur. C'est effectivement ce vide en nous, d'où naît le désir. Mais qu'en faire, justement, quand on n'a pas rencontré l'objet de son désir?
Oui, et ce qu'on peut craindre, peut-être, c'est que finalement, l'adolescent qui a une soirée de libre, bah, c'est plus simple de se mettre devant Netflix que de se dire « je vais sortir pour rencontrer des copains ». Mais s'il est devant Netflix, il ne va pas rencontrer la femme avec qui il pourra faire l'amour.
Exactement, et puis c'est plus simple de se dire « je vais rester devant mon écran, Netflix éventuellement », plutôt que de se dire « j'ai envie d'y aller ». Et réaliser qu'on a peur d'y aller, parce que c'est avec ça qu'il faut composer.
Exactement.
C'est qu'on a tous très envie de plein de choses, et on a tous très peur de plein de choses aussi. Et si on n'a pas effectivement rencontré ces peurs-là, et donc la possibilité de les dépasser, ben oui, on va rester dans une position finalement très peinard, très confortable, un écran, une série qu'on aime bien, bien au chaud, bien douillé. Et puis on rentre pas dans la vie.
Exactement. Et je ne fais pas pub pour Netflix parce que de toute façon je ne suis pas abonnée et je ne veux pas m'abonner, hein, que ce soit bien clair. Allez, on vous donne la parole bien sûr. Réagissez sur Sud Radio 0826 300 300. C'est Corinne dans un instant qui va justement nous dire comment elle utilise les réseaux sociaux.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes avec Sophie Cadalen, psychanalyste, qui nous invite à vivre ses désirs, nos désirs. C'est votre dernier livre. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit un livre,
oui,
Sophie. C'est pas
vrai.
Bien. C'est pas bien. Il faut s'y remettre. On a besoin de vous. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, c'est votre nièce, hein, je crois, qui affiche toute sa vie sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Et pas toujours dans de bonnes conditions. Moi, je suis effarée de voir sur Insta, puisque j'ai Instagram, de voir ces soirées en boîte, soirées de beuverie, où elle se vante d'avoir bu 3, 4, 5, 10 Ricard dans la soirée. Moi, je suis effarée par ça. Moi, mes filles maintenant sont grandes, elles ont 27 et 30 ans, 32 même.
Et à quel âge votre nièce?
Alors, ma nièce a 24 ans. Voilà, et c'est ce besoin de... alors, il y a eu une période où elle était mal dans sa peau. Aujourd'hui, voilà, elle est plus à l'aise, hein, elle s'est fait opérer, voilà, elle a une jolie poitrine, ce qui était un complexe chez elle. Donc, elle postait très peu de photos d'elle. Aujourd'hui,
elle n'avait pas du tout de poitrine, c'est ça?
Non, elle avait une toute petite poitrine et elle était complexée par ça. Après, elle a eu un compagnon qui a bien envenimé les choses et qui l'a beaucoup complexée par rapport à cette petite poitrine. Donc, elle s'est fait opérer et aujourd'hui, elle met des photos d'elle en soutien-gorge sur les réseaux sociaux, en petit bustier. Bon, voilà, moi, ça me fait peur. Et ce qui me fait peur surtout, ce sont ces soirées de beuverie, qu'elle affiche, parce que ça, c'est des choses qui restent quand même. Et j'ai l'impression, je pense plutôt que c'est générationnel, et c'est vrai, c'est ce que disait Sophie, les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est la facilité, c'est la rapidité. C'est vrai que c'est plus facile de poster une photo de soi plutôt que de mettre un texte qui parle de vous. Vous voyez, ce qui va attirer, c'est la photo, c'est pas forcément le texte. On n'a pas envie de lire, on a envie de voir, parce que c'est plus rapide. Et j'ai quand même cette sensation que le confinement a aggravé la situation. ça a aggravé.
Vous avez certainement raison. Oui, je crois que le confinement a développé tout ça d'une manière assez exponentielle et que le pli est pris. Hein. Et votre nièce, elle a 24 ans, mais la génération actuelle des 15-16 ans sont encore plus accros de tout ça que ceux qui ont 24-25 ans. Bon, elle était visiblement pas bien dans sa peau, hein, d'où l'opération esthétique. Moi, je suis toujours un peu, je trouve toujours ça un peu triste quand on se fait opérer trop jeune, parce que bon, c'est des petits seins, c'est très joli aussi, hein, mais bon.
Tout à fait.
Vous lui avez dit ça, tout ce que vous pensez, vous en avez parlé avec elle?
Alors oui, je lui ai dit, franchement, ça, c'est pas terrible, c'est quelque chose qui va te suivre. Alors certes, c'est pas sur Facebook, mais c'est des choses qui, voilà, tes employeurs peuvent aller potentiellement, ou tes profs peuvent aller voir ton Insta, il peut y avoir des captures d'écran, il peut y avoir, bon, ça la fait rire. Après, ça inquiète aussi sa maman, hein, parce que j'en ai parlé à ma sœur, évidemment. Je lui dis, mais ça me fait peur, quoi. C'est dramatique, tu vois. Enfin, on en est rendu à, j'expose ma vie, j'expose mes soirées de beuverie, j'expose mon corps.
Ce qui est ennuyeux, c'est que elle boit quand même beaucoup d'alcool en une soirée, et ça, c'est pas bon pour sa santé non plus.
On est d'accord, est d'accord. Donc c'est inquiétant, ça inquiète ma sœur, ça nous inquiète aussi. Mais bon, écoutez, visiblement, ça fait rire ma nièce. Donc je crois qu'ils sont pas vraiment conscients à cet âge-là de ce que ça peut engendrer. Et vous savez, il y a un métier qui n'existait pas encore à nos époques. Je veux dire, même il y a 15 ou 20 ans, le métier d'influenceuse.
Ça, vous avez raison, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame pour beaucoup de jeunes.
C'est surtout souvent très pathétique.
Oui. Ah oui, mais complètement. Et puis c'est inintéressant. Enfin, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'elles proposaient. Elles sont entièrement refaites. C'est surfé. C'est pas la réalité. C'est ce besoin d'être admiré, d'être. Ça m'inquiète.
Oui, mais quand vous disiez, d'ailleurs, je reprends ce que vous dites là. Vous disiez tout à l'heure que votre nièce, manifestement, allait mieux. Je suis pas sûre qu'elle aille mieux, parce que c'est vraiment l'exact inverse de son complexe précédent, de quand elle avait une petite poitrine. Vous dites un copain qui l'a pas aidé à. Là, il y a une telle envie de montrer, démontrer, remontrer, exposer, exhiber, que c'est pas le signe qu'elle va bien encore. Il y a quelque chose qu'elle donne à voir, qu'elle veut être validée, qu'elle veut prouver, qu'elle veut... Ça, c'est pas aller bien. Aller bien, c'est ne pas avoir forcément besoin de montrer tout à tout le monde. C'est aussi être capable de son intimité, être capable de garder beaucoup de choses pour soi, ne pas avoir à rendre compte de tout sur tout. Et je crois que pour l'aider un peu, vous auriez tout intérêt à, plutôt que de rentrer un peu dedans en lui disant, voilà, mais c'est pas bien, tu devrais faire attention, et évidemment, elle se marre. C'est peut-être lui demander tranquillement, à un moment donné, vous avez un peu d'intimité, de lui demander très, très gentiment, tu vas bien, vraiment ?
C'est un bon conseil. Parce que j'ai l'impression qu'avec ça, elle comble un manque.
Oui.
Bien sûr. Elle s'est mis des seins plus importants pour se donner plus d'importance. Mais ça ne remplit toujours pas le vide intérieur. Vous savez, plus on a besoin de montrer son image extérieure, plus ça prouve qu'intérieurement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas envie tous de séduire et qu'on n'a pas tous envie de bien présenter. Mais quand c'est un peu excessif, c'est comme les tatouages. Souvent, beaucoup de tatouages révèlent quelque chose qui manque à l'intérieur. Hein.
Alors, je vais vous dire, très honnêtement, il y a une dizaine de jours, elle s'est fait faire 5 tatouages sur tout le corps. Oh, quand j'ai vu ça, et puis des choses qui se voient, et là, j'étais, mais ses parents aussi, mais bon, ses parents.
Votre sœur peut pas lui conseiller une petite consultation auprès d'un thérapeute pour qu'elle puisse un peu s'exprimer.
Je sais pas si ma sœur est consciente qu'il y a un mal-être, qu'il y a quelque chose quand même qui va pas. Se faire tatouer comme ça, là aujourd'hui, elle a donc ses 5 nouveaux tatouages, mais elle en avait déjà 2.
C'est aussi la mode, hein, donc on sait que les jeunes. Le problème, c'est qu'elle a 24 ans, c'est plus une adolescente non plus. Hein.
Et puis c'est beaucoup d'un coup. Enfin, c'est ça aussi qui est suspect, qu'elle se fasse tatouer, bien sûr. C'est tout à fait couru et courant aujourd'hui, mais là, c'est beaucoup, c'est tout est beaucoup. Elle boit beaucoup d'alcool, elle se tatoue beaucoup, elle se montre beaucoup.
Elle est dans l'excès.
Voilà, c'est ça qui est suspect. Mais je crois, mais même à votre sœur, parlez-lui-en en disant, je suis pas sûre que ta fille aille bien. Est-ce qu'il faudrait pas que tranquillement, voilà, tu lui poses la question, d'apaiser les choses plutôt que de lui rentrer dedans, ce qui fait que ça va augmenter son envie de provoquer, et qui va prouver en plus que vous la regardez, donc ça va satisfaire finalement un besoin. Donc la prendre autrement, peut-être sur un mode, voilà, la déconcerter peut-être un peu, en lui demandant, voilà, très tranquillement, t'es sûr que ça va ?
Ouais, je pense qu'il y a effectivement un problème plus profond, voilà, parce que ça a été d'abord un piercing, après puis un deuxième, et d'abord un faux au niveau du nez, puis après, ben voilà, tout le monde s'est... Mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? C'est de la folie. Et puis on est passé à autre chose. Et bien après, elle est passée au vrai piercing dans le nez. Oh, c'est particulier, ça aussi, hein? Les piercings au niveau des oreilles. Voilà. Et aujourd'hui, on en est au tatouage.
Oui, mais de toute façon, depuis toujours, l'adolescence est une période où il y a une catégorie de jeunes qui vont se rebeller. Alors après, il y a eu l'époque punk, il y a eu l'époque blouson noir. Aujourd'hui, c'est piercing et tatouage. Le problème, c'est que votre fille, enfin votre nièce, décidément, c'est pas votre fille, excusez-moi Corinne, elle a 24 ans, elle est sortie de la période adolescente et visiblement, elle continue à se comporter comme une adolescente. Donc c'est ça qu'il faut aussi interroger, peut-être.
Oui, oui.
Alors, est-ce qu'elle a eu un gros chagrin d'amour qu'elle n'a peut-être pas encore dépassé ? Est-ce que dans ses parents, il y a eu des conflits dans sa famille ? Enfin, il y a peut-être quelque chose aussi qui explique ce...
Il faut aller chercher plus loin. Après, dans la famille, non. Je sais qu'il y a eu une histoire... première histoire de cœur qui a été compliquée, hein, il lui a fallu du 2-3 ans, hein, pour arriver à passer à autre chose. Mais je ne sais pas. Je crois qu'elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être reconnue, et c'est là que ça pêche.
Et vous pourriez comme ça un soir tout simplement l'inviter à dîner et dîner simplement avec elle et puis la laisser parler, lui dire écoute, ça me fait plaisir de passer la soirée avec toi, alors qu'est-ce que tu aimes maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire, quels sont tes désirs, pour revenir sur le thème que Sophie apprécie particulièrement, parce qu'au fond quels sont ses désirs, voyez, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est peut-être tout simplement comme ça que vous pouvez l'aider à un peu mieux se trouver.
C'est vrai. On parle beaucoup, hein. Je suis très ouverte avec elle. Elle est en recherche d'emploi. Elle voulait continuer ses études. Elle a quitté son école. Elle a quitté son appartement. Elle est revenue chez ses parents. Puis finalement, elle voudrait retourner là où elle est.
Après, oui, on voit bien qu'elle se cherche. Vous voyez, on voit bien qu'elle se cherche et que pour l'instant, elle n'arrive pas à se trouver. Donc peut-être que vous pourriez déjà être un peu sa thérapeute pendant une soirée.
C'est une bonne idée, oui, suivez vos conseils.
Ben merci Corinne, en tout cas, de votre témoignage.
Merci à vous.
Parce qu'on
merci.
Est en plein dans le cœur du sujet, évidemment. Allez, une petite pause, on retrouve notre journaliste Soizic Belin et vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, la sexy news.
Avec Nolib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Nolib.com, Nolib.com. Inscrivez-vous gratuitement.
Eh bien, Sophie Cadalène, nous retrouvons Soizic Belin qui va nous parler de l'enfer des filtres. Mais alors, je ne sais absolument pas de quoi ça parle.
Les réseaux sociaux et leur capacité à vous déformer à cause des filtres, hein, plutôt à vous transformer l'espace d'un court instant, d'une photo, d'une vidéo, ou l'espace même d'une toute une vie, vous allez voir pourquoi. Alors ce monde parallèle dans lequel porter des oreilles de lapin, une langue qui pendouille, des yeux de chat rose bonbon, ne vous ridiculisera pas, bien au contraire, quoique. Je m'explique, il y a 6 ans à peu près, je suis partie avec une amie, nous sommes allés au Japon, à Kyoto, et je me souviens que dans un centre commercial très kawaii, entre les boutiques Hello Kitty et des étagères de manga, il y avait ces photomatons très spécifiques, les Purikura, que vous preniez en photo et l'appareil déformait quelque peu votre visage pour vous transformer en manga. Le résultat était plus ou moins réussi, plus ou moins naturel, mais soit, j'avais trouvé ça hyper chouette et la photo est encore aimantée sur mon frigo. 6 ans plus tard, ce genre d'expérience ressemble finalement à un document que pourrait diffuser Lina, puisqu'avec vos appareils et smartphones, vous pouvez tous vous transformer en kawaii girl sans avoir à faire 13 heures de vol. Et j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une possibilité, mais c'est presque même une injonction. Aujourd'hui, sur toutes vos applications, vos réseaux sociaux, vous avez inclus avec la fonction appareil photo des filtres qui vont vous permettre de lisser, affiner, sculpter, colorer, modifier, transformer votre visage. Alors, si certains filtres sont destinés à un public plus jeune, d'adolescents, avec des paillettes, des cœurs et autres symboles mignons, ne vous détrompez pas, même les adultes, et je pense aux femmes en grande majorité, utilisent des filtres plus discrets pour apporter ce qu'on appelle du glow à leur visage. Alors quitte finalement à poster des photos d'elles qui ne sont plus vraiment elles, puisque l'on a l'impression que c'est une sorte de fond de teint que l'on va appliquer sur son visage et que celui-ci va juste lisser nos pores. Détrompez-vous, c'est finalement bien plus que cela. La plupart du temps, votre visage est totalement resculpté. Vos pommettes, la taille de vos yeux, la couleur de votre peau, l'épaisseur de vos lèvres. Certains diraient que ces filtres vous optimisent, mais s'ils faisaient que créer lentement mais sûrement chez vous ce que l'on appelle une dysmorphie. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple. Imaginez qu'il y ait un véritable décalage qui se crée entre le vous pris en photo, le vous sur les réseaux sociaux, dans le monde virtuel, et le vous en vrai, dans la real life, comme on dit. Vous regarder dans le miroir devient tout de suite très compliqué, voire une véritable torture. Alors selon un article signé par Camille Gomer pour Science et Avenir, des chirurgiens plasticiens américains avaient même tiré la sonnette d'alarme, puisque de plus en plus de patients les consultaient pour ressembler à leur seul selfie retouché, ce qu'ils appellent la dysmorphie Snapchat, des dérives qui, selon le docteur Sébastien Garçon, vice-président de la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens, n'est pas encore arrivée en France, en tout cas ne touche pas vraiment les Français. Alors si depuis 2019, Facebook et Instagram luttent contre les filtres censés simuler les opérations de chirurgie esthétique, le réseau social permet désormais à tout un chacun, à ses utilisateurs, de créer des filtres via un programme nommé Spark AR Studio et de les partager. Alors une fois de plus, c'est une façon d'acquérir des followers, donc attention, il va falloir que votre filtre plaise, qu'il convienne à un maximum de personnes, et donc on en revient encore une fois à déformer votre visage, à le teinter, à lui ajouter des petits détails comme des taches de rousseur, à modifier la couleur des yeux, la brillance, les écarts entre les yeux, le front, le nez, bref, à modifier totalement la sculpture de votre visage. Et quand vous vous regardez dans une glace, il y aura donc une espèce d'insatisfaction face à ce quelque chose que vous ne trouverez pas aussi beau que dans la version de vous-même virtuelle. C'est donc une espèce de boucle infernale à laquelle on assiste. Séverine Pierron, qui est journaliste, parle même de chirurgie esthétique du pauvre, puisque tous ces filtres se basent sur des visages qui sont irréels à la base, puisque ce sont des visages d'influenceuses, des visages qui ont été eux-mêmes modifiés par la chirurgie esthétique. On ne fait alors que copier l'irréel. Chose qui m'a fait sourire, mais peut-être ne devrais-je pas, l'application Zoom qu'on a tous utilisée, notamment pendant le confinement. Vous savez, pendant le confinement, les réunions virtuelles se sont généralisées. Autant vous dire que nous étions nombreux à pouvoir travailler en pyjama, en bas de pyjama, donc ça c'est ok, mais pas sans son filtre. Combien sommes-nous à avoir eu du mal à nous regarder comme ça en virtuel ? Combien sommes-nous à avoir cherché un angle qui nous mettait plus ou moins en valeur ? L'application a donc décidé de vous proposer des filtres maquillage, histoire, mesdames, de ne pas vous laisser sans masque face aux autres. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter tout ça. Aujourd'hui, les marques de cosmétiques ont bien compris l'attrait des filtres et l'utilisation de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle vont permettre à ces marques de vous proposer des tests de maquillage, de coiffure, donc de l'essayage virtuel. Une fois plus, il y a quelques années, mais là il faut faire un bond un peu plus grand, je voulais me couper les cheveux et un coiffeur visagiste m'a proposé à l'aide d'un logiciel de voir ce que ça donnerait en fait sur moi. Vous vous installiez face à l'écran, il capturait une photo de votre tête et à partir de là, il vous proposait des coiffures. Aujourd'hui, l'usage du filtre permet à tout un chacun de tester avant de passer à l'action, avant d'acheter son rouge à lèvres, son vernis à ongles, avant de se colorer ou de se couper les cheveux. Bref, aujourd'hui, le virtuel prime sur le réel. C'est un peu inquiétant à mon sens, mais bon, c'est du jugement, donc je ne juge pas.
Non, mais vous avez raison, hein. Votre chronique montre bien à quel point on est de moins en moins en train d'accepter sa réalité. Et on se raconte des histoires virtuelles, mais c'est un peu, enfin, moi, je trouve ça très inquiétant, non, Sophie ?
Il y a une volonté de maîtrise, d'assurance. On essaye avant, on imagine avant, on dessine avant. Et la réalité, et je crois, ne correspond d'ailleurs jamais tout à fait à ce qu'on en a imaginé. Ah, oui, d'ailleurs, non, j'avais une question choisie.
Bien sûr.
Vous étiez coupé les cheveux après avoir vu...
Non. Non, parce que c'était il y a très longtemps, c'était pas très sophistiqué, mais même aujourd'hui, il y a des applications qui vous permettent de le faire avec le téléphone, changer la couleur des cheveux, c'est quand même très mal fichu, ça va évoluer, hein, ce sera de plus en plus réaliste, mais ça pose problème quand même, c'est jamais... Puis vous avez un visage en 2D, pas en 3D.
Ce qui est très très ennuyeux, c'est que pour toute personne un peu fragile, ça finit par ne plus pouvoir s'accepter soi-même.
Ah, bien sûr.
Et passer toujours à travers des filtres, quoi. C'est un peu ce que je crains, enfin, il me semble.
Oui, mais je crois que toutes ces technologies, elles appuient sur des fragilités déjà existantes.
Bien sûr.
Et je crois que tout va au service de nos forces, mais aussi de nos fragilités.
Donc résistons.
Résistons, oui, ou combattons, parce que je vous avoue que moi j'ai pas résisté au début, hein. J'ai fait des photos avec filtre, et c'est très difficile ensuite de poster sur les réseaux sociaux des photos sans filtre. Il y a quand même une différence.
Mais vous êtes belle, Soizic.
Oh, c'est gentil. N'est-ce je pas suis encore plus belle
avec un très belle.
Ben oui. Mais non, mais enfin, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que font les féministes?
Ah oui, non,
puisque,
oui,
puisqu'il est question de s'accepter tel qu'on est. Donc, que font les féministes contre les filtres? Enfin,
mais vous avez plus
elles
en plus
se trompent de combat.
Non, mais vous avez plus en plus de jeunes filles, effectivement, qui même maintenant se prennent en photo pour contrer ces histoires de filtres beauté avec l'acné, en fait, apparente, sans se camoufler, sans fond de teint. Et je trouve ça très intéressant, en fait, ça dit beaucoup. C'est un peu de réalité dans ce monde virtuel, ça fait quand même du bien. Voilà.
Merci, Soizic.
Je vous en prie.
Sud Radio La Sexy News.
Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, Noulib.com. Inscrivez-vous gratuitement.
Et on continue avec Adrien qui va répondre à trois questions intimes. Bonjour Adrien.
Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Je vais
bonjour.
Répondre sans filtre.
Oui, vous n'aurez pas droit à joker ni filtre pour répondre à ces trois questions. Alors, première question, quel est l'état de votre libido? Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour une fois par mois, deux fois par jour? Qu'est-ce que vous diriez?
J'ai une libido qui est assez pleine, j'ai la soixantaine et si je peux faire l'amour trois fois par semaine, c'est bien.
Eh ben, écoutez, bravo, félicitations. Maintenez-la à ce niveau, Adrien.
Ma compagne n'est pas toujours d'accord.
Ah bah oui,
elle serait plutôt à une ou deux fois qu'à deux, trois fois.
Bah écoutez,
mais
ça va.
Il y a
une
différence, je pense, entre la ménopause et l'andropause. Nous, je pense qu'on a tendance à être encore plus demandeur. La femme a moins de besoins, plus de tendresse peut-être.
Ce sera notre sujet de lundi d'ailleurs. On évoquera avec Yves Plati la différence de besoins sexuels dans le couple et il essayera de répondre pourquoi les femmes ont souvent moins de besoins que les hommes.
Ah
et oui,
j'écouterai avec plaisir.
Vous aurez la réponse lundi. Deuxième question, est-ce que vous préférez les seins ou les fesses chez une femme? Qu'est-ce que vous regardez en premier?
Aïe. Moi, je regarde le regard, je regarde les yeux.
Oh, bah oui, Adrien, avec quelqu'un qui veut faire l'amour trois fois par semaine, je vais vous croire.
On a tout ri dans le studio, hein. On s'est toutes marrées, hein.
Vous avez tort. C'est l'expression de l'âme, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des beaux seins et des belles fesses rondes, ça fait plaisir.
Oui, j'ai
du mal à choisir, hein. Peut-être les seins. Je suis grand, donc j'ai tendance à plonger vers les seins. Mais cette mode des pantalons moulants est assez agréable aussi. Non, on va dire les seins, quand les seins, la maternité, tout ce que ça. Oh oui, les seins.
D'accord, mais vous avez le droit de tout regarder, même les yeux, hein, Adrien.
Bon, merci Brigitte.
Je vous laisse tout regarder, il n'y a pas de souci. Vous savez qu'on est très, très tolérant dans ce studio.
J'ai remarqué.
Alors, dernière question. Quelle serait pour vous la meilleure qualité d'une bonne maîtresse? À part son regard.
À avoir de beaux yeux. Pardon, je vous ai soufflé la réponse, excusez-moi.
Alors une bonne maîtresse, pas maîtresse d'école bien sûr, maîtresse. Mais moi je ne suis pas tellement pour la maîtresse. Hein. Moi j'aime bien avoir une compagne officielle. Mais
oui, bon. Alors quelle serait
Imaginons quand même une maîtresse, oui.
Non mais ça peut être votre femme hein, qui soit votre maîtresse. Hein. Moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Et donc quelle serait sa meilleure qualité? Sexuellement.
La meilleure qualité. Sexuellement parlant.
Ah bah bien sûr.
Là.
Vous savez bien que je suis obsédé, Adrien.
Pas tant que moi. Alors on va dire persévérance et
qu'est-ce que vous entendez par persévérance?
C'est-à-dire qu'elle prenne son temps. Moi j'adore les préliminaires. Et j'aime beaucoup voir le plaisir dans le regard de l'autre, c'est pour ça que je parle du regard.
D'accord, donc qu'elle aime bien que ça dure longtemps, que l'acte sexuel dure longtemps.
Oui, qu'elle aime bien prendre son temps, même si par moments ça peut être un peu sauvage et rapide, mais d'une manière générale, oui, qu'elle aime bien prendre son temps et qu'elle soit délicatement parfumée.
Délicatement parfumée, tiens. Très bien. Eh bien, vous pouvez poser une question à Sophie Cadalen, elle vous écoute, Adrien.
Alors, je voulais savoir si y a une phrase qui circule à une époque. Alors, juste au départ de votre émission, le narcissisme, je pense qu'il est important, et vous l'avez déjà dit, je crois, de s'aimer pour aimer les autres. Mais à part cela, il me semble que la femme a besoin d'aimer pour faire l'amour, alors que l'homme, c'est peut-être l'inverse. Davantage, de faire l'amour pour aimer. Est-ce que c'est idiot ce que je dis là ?
Mais je suis pas sûre que ce soit si vrai que ça, en tout cas pas pour tout le monde, pas tout le temps. Je pense que ça a beaucoup rassuré les hommes, cette phrase-là. Mm-hmm. Que ça leur rassurait qu'effectivement nous étions d'abord des cœurs, avant d'être des culs, voilà, disons-le. Et que l'idée que nous aussi, femmes, ayons peut-être des appétits sexuels, peut-être du désir avant que de l'envie d'aimer, je crois que ça a toujours été, en tout cas depuis longtemps, c'est très très effrayant pour les hommes. Donc oui, c'est vrai pour certaines femmes, mais c'est vrai aussi pour certains hommes. Mais je crois que l'idée générale rassure peut-être les deux sexes en se disant, voilà, ça marche d'une certaine manière, on sait quel est notre rôle à chacun, et chacun, voilà, est censé tenir sa partition. C'est ça qui nous rassure.
D'accord, alors que ça n'est pas si différent d'un sexe à l'autre.
Je crois qu'on est surtout différents les uns des autres. Et que, effectivement, j'entends des hommes, effectivement, incapables de faire l'amour s'ils n'aiment pas. Et des femmes qui dissocient très bien.
D'accord.
Ce que l'époque aussi, parce que l'époque aussi influe là-dessus, permet de plus en plus, mais n'a pas totalement libéré encore, je crois.
Ok.
En tout cas, c'est la réponse de Sophie Cadalen, Adrien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On demande la Légion d'honneur pour Brigitte Allais, hein, pour tous les services rendus.
merci Adrien, allez-y.
Pour votre émission.
Bon, allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant.
14h-16h, Brigitte Allais, Sud Radio.
En compagnie de Sophie Cadalen, on essaye de comprendre pourquoi les gens ont besoin d'envoyer autant de selfies, pourquoi on a tellement besoin de montrer son image avec des filtres, comme vient de le dire Soizic Belin, etc. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Donc vous, ce n'est pas votre cas, mais c'est votre sœur hein, qui est complètement dans le selfie à tout va.
Oui, voilà, c'est vrai que moi, je n'ai pas trop ce problème de narcissisme, à part quand mon compagnon, justement, est... bien que les week-ends me voient et qu'il est tout le temps sur Facebook. Là, ça déclenche un petit côté narcissique, je pense, qui me fait rager parce qu'au lieu de s'occuper de moi, il s'occupe de son téléphone.
Ça, c'est toujours le problème du tiers. Hein, quand on est avec quelqu'un et qu'il s'occupe d'autre chose que de nous, c'est toujours désagréable. Surtout si vous voyez que le week-end.
C'est ça. Voilà, j'estime qu'il peut passer son temps à autre chose que s'occuper de son téléphone. Voilà, il a toute la semaine s'il veut, ça ne me dérange pas, mais après le week-end, j'aimerais être son seul centre d'intérêt, on va dire.
Alors, son seul centre d'intérêt 24 heures sur 24 pendant le week-end, peut-être pas, mais au moins suffisamment. Mais vous lui avez dit ?
Oui. Mais du coup, il a un petit peu rectifié. Je lui dis, écoute, quand j'ai des tâches, quand je suis en train de m'occuper d'autre chose, tu t'occupes de ton téléphone, ça ne me gêne pas. Mais dès que j'ai fini et que j'attends qu'une chose, c'est que voilà, on passe du temps ensemble. Là, ça m'embête un peu, quoi.
Non, mais il faut être assez ferme là-dessus. Hein. C'est, enfin, je crois, hein, Sophie.
Oui, il faut dire les choses. Voilà, comment dire, remettre des mots sur le temps qu'on passe ensemble, sur les envies qu'on a de l'autre, sur le profiter de l'autre. Oui, c'est être là. Effectivement, le téléphone peut nous déporter très ailleurs, dans d'autres impératifs qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs. Oui, c'est tout simplement dire oui, je te veux toi, là, maintenant, avec moi.
Voilà, c'est dit et apparemment c'est entendu.
Et c'est pas du narcissisme, ça.
Ah, d'accord.
Ah ben non, c'est, ça me semble assez logique quand on est avec quelqu'un de vouloir, en tout cas, de temps en temps, pas à 100%, mais profiter de ce quelqu'un.
Mais là lui, c'est pas du narcissisme non plus, c'est plus une dépendance, une addiction un peu oui. à son réseau Facebook. Hein.
Je pense, oui. Lui non plus n'est pas narcissique parce qu'il met pas de photos de lui non plus.
Non, mais il est un peu dépendant, un peu tombé un peu dans l'addiction. Donc vous lui faites du bien en lui interdisant un petit peu par moment parce que vous le sevrez en quelque sorte.
Un petit peu. Alors après, je le sèvre pas du reste, justement. Je le sèvre du narcissisme du téléphone en m'occupant de lui, d'ailleurs.
Voilà, très bien. Et alors, votre sœur, elle, en revanche, donc, elle envoie des selfies pour tout, c'est ça ?
Oui, alors quand elle boit l'apéro, elle montre ce qu'elle boit à l'apéro. Quand elle fait des crêpes, par exemple, elle va montrer qu'elle fait des crêpes. Quand elle promène son chien, elle met ses balades avec son chien. Quand elle est au travail, elle a des animaux, elle met les animaux en photo, enfin... tout est sujet à être pris en photo. Alors,
et elle les envoie à beaucoup de gens ?
Et ben, en fait, elle les met en story, donc n'importe qui peut les voir, en fait.
D'accord.
Mmh. C'est que c'est en story. Donc, c'est pas forcément qu'elle les envoie, c'est tout le temps en story sur les réseaux sociaux. Donc, les stories sont accessibles, je pense, au public, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, ça me gêne, surtout quand c'est ma fille qu'elle prend en photo.
Ah, et qu'elle met en story. Oui. Et voilà. Ça, vous le lui avez dit que vous ne vouliez pas ?
Alors, oui, mais j'ai la réponse systématique. Oui, mais je sais ce que je fais, c'est pas grave, il n'y a rien de méchant. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle est quand même moniteur éducateur dans un établissement où elle reçoit des jeunes en difficulté sociale. Donc, sa réponse me convient pas du tout même.
Bah, faut être plus strict, hein. Faut être plus ferme avec elle.
Quoique, quel que soit le sujet, de toute façon, j'ai été stricte et demandeuse d'arrêter. De toute façon, elle aura toujours raison. Elle ne changera pas. C'est toujours elle qui a raison, de toute façon, quoi qu'elle fasse ou qu'elle dise.
Oui, oui. Donc, je crois qu'il ne faut pas aller...
Pour changer ce genre de comportement, je ne sais pas quoi faire.
Il ne faut pas aller sur le terrain de « j'ai raison » ou « c'est moi qui ai raison ». Enfin, « j'ai raison » ou « tu as tort ». Ou « j'ai raison » et après, je ne m'en sors pas. Bref. Ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il faut aller, mais plutôt sur le terrain, tout simplement ferme, définitif, je ne veux pas. Voilà, j'ai peut-être tort, tu n'es sans doute pas d'accord avec moi, tu penses que c'est gentil et que ce n'est pas grave, moi, je ne veux pas, point barre.
Elle a quel âge, votre fille ?
Ma fille, elle a 12 ans.
Oui, donc 12 ans, c'est votre fille et vous avez le droit d'image de votre fille.
Oui, je pense.
Mais c'est pas, je pense, c'est sûr, c'est sûr. Donc vous avez tout à fait le droit de lui interdire.
Et vous pouvez même assumer le côté, voilà, je suis peut-être idiote, je suis peut-être vieux jeu, je comprends rien à rien. D'accord, je veux bien, mais tout simplement, je t'interdis de mettre ma fille sur les réseaux sociaux. Et là, vraiment, soyez très ferme. C'est du ressort de la loi, presque. Enfin, c'est même carrément du ressort de la loi.
Oui, alors on est deux, parce que même son père, on est séparés avec son père, qui est pourtant du genre beaucoup plus ferme, plus autoritaire que moi, n'a même pas... lui aussi, lui dit les choses, mais il me dit c'est le problème de ta sœur. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, elle aura toujours raison.
Oui, mais à ce moment-là, vous lui dites, si tu continues, tu ne pourras plus prendre ma fille, et puis c'est tout.
Du chantage, non ?
Non, c'est pas du chantage, c'est vous affirmer. Votre fille, elle a 12 ans. Vous n'avez pas envie qu'elle soit sur ses réseaux sociaux. Vous avez tout à fait le droit d'affirmer et d'imposer votre désir, Ophélie. Vous savez, plus les parents vont affirmer, même s'ils ont tort, plus ça va donner à leurs enfants la preuve qu'on peut se respecter et se faire respecter par les autres.
Oui.
Ce qui ne veut pas dire que votre fille, plus tard, n'aura pas envie de faire comme votre sœur. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Donc, il ne faut pas rester dans cette situation-là.
Après, c'est vrai qu'effectivement, ma fille copie beaucoup de ma sœur. C'est impressionnant. Elle lui ressemble déjà énormément physiquement. C'est vrai qu'elle a... Si on nous met à côté, on croit que c'est la fille de ma sœur.
Et elle a des enfants, votre sœur ?
Pas du tout.
Et ben voilà.
Oui, mais même si votre fille aime beaucoup sa tante, et tant mieux, même si vous trouvez qu'il y a une ressemblance, restez-vous la mère de votre fille, tout simplement. Vous êtes la gardienne, effectivement, de son intimité, d'une autorisation que vous ne donnez pas. Ça vous aidera plus tard dans votre rapport à votre fille. Après, elle fera ce qu'elle veut. Voilà, si à 16 ans, elle décide, à 15 ans, voilà, vous aurez moins prise sur elle, elle aura son téléphone, elle aura tous ces moyens-là, elle fera ce qu'elle veut. Mais là, pour l'instant, c'est aussi vous affirmer par rapport à votre fille, lui dire plus tard tu feras ce que tu veux, pour l'instant tu n'as pas à décider de ça, en tout cas on n'a pas à décider pour toi de ce qu'on fait de ton image. Et c'est très important. C'est vraiment du ressort, ça ne se discute pas. Encore une fois, ce n'est pas une histoire de on comprend, on explique, on justifie, c'est vous ne voulez pas, point.
Et ça montre quelque chose de vous, Ophélie. Ça montre que vous avez une difficulté à vous imposer par rapport à votre sœur, par rapport sans doute, ça a été certainement sans doute le cas par rapport à votre mère. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre à se respecter et à se faire respecter. Et je vous assure, c'est pour votre fille que ça fera du bien, mais ça vous fera du bien aussi.
Ah oui, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que c'est effectivement tout le monde le dit, hein, que ce soit mon oncle ou des gens extérieurs à la famille. De toute façon, t'as toujours été la moins préférée de la famille. On sait très bien que c'est ta sœur la préférée, c'est elle qui a tous les droits.
C'est peut-être pas elle la plus heureuse, Ophélie. Alors affirmez-vous et vous verrez, ça vous fera du bien. Merci en tout cas, Ophélie, de votre témoignage. Allez, on continue après les infos. On voit bien à quel point ça révèle de nous, tous ces réseaux sociaux. Et on continue à en parler après les infos avec vous, bien sûr, au 0826-300-300. J'ose cette devinette. Pourquoi c'est la poule qui est l'animal qui ressemble le plus à une femme? Vous aurez la possibilité de nous donner une réponse après les infos, Sophie Cadalen.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes avec Sophie Cadalen et nous évoquons les réseaux sociaux, les selfies, tout ce qui se passe actuellement sur notre manière de communiquer. Et vous pouvez bien sûr vous aussi réagir en nous appelant sur Sud Radio au 0826-300-300. Alors, on va retrouver Simon Collin dans un instant qui va nous parler de la masturbation dans la littérature. Mais je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi c'est la poule qui est l'animal qui ressemble le plus à une femme?
Je ne sais pas. Vous savez, Brigitte, je suis nulle en devinette.
Bon, alors c'est simple parce qu'elle a une toute petite tête, un gros cul. Et elle a besoin de beaucoup de blé. Je savais que ça allait vous faire réagir, mais moi ça m'amuse. Puis écoutez, hein, les hommes n'ont plus le droit de les faire, ces devinettes sexistes.
Donc faisons-les, hein,
faisons-les, ça leur fera du bien de les entendre. Bonjour Simon.
Bonjour
Colin.
Brigitte.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez fait le tour de tout ce qui se passe au niveau de la masturbation dans la littérature, on va y passer 2 heures.
Non, j'ai fait le voyage autour de mon sexe toute la nuit. Alors Woody Allen nous avait prévenu, il nous avait dit « Ne dites pas du mal de la masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime ». Il disait aussi « Si je fais si bien l'amour, c'est que je me suis beaucoup entraîné tout seul ». Alors déjà dans la Bible, on trouve un Onan qui est puni par Dieu car il refuse d'enfanter la femme de son frère. Il est écrit « Onan se souillait à terre ». Alors que dans la mythologie grecque, c'est tout l'inverse. Pan, le dieu, n'arrive pas à coucher, contrairement à Peter Pan qui était entouré d'une cour de jeunes garçons. Son père Hermès lui conseille quoi? De se masturber. Et dans l'Antiquité, on retrouve plein de mentions de la masturbation. Par exemple, Martial se moquait de la branlette, il disait « Ta verge ne se dresse plus qu'en rêve, et ton jet, si énergétique jadis, ne dépasse plus tes pieds. En vain, tes mains s'épuisent à secouer ce membre flétri, nul effort ne peut lui rendre vie et lui faire lever la tête. » Mais la philosophie est née avec la masturbation, puisque le plus grand et le premier des branleurs était Diogène le Cynique, qui, tel Gérard Depardieu, vivait dans un tonneau et disait « Ah si seulement on pouvait apaiser sa faim en se frottant ainsi l'estomac. » Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il ne se branlait pas tant par plaisir, mais pour des raisons d'hygiène, pour évacuer les fluides corporels. Et il disait « Ma main a chanté la première, le chant nuptial. » Et on raconte même un jour, il était en train de se toucher au soleil, arrive Alexandre le Grand qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » Et Diogène lui a répondu « Cesse de me faire de l'ombre. » Il sera même condamné pour excès de branlette sur l'agora. Mais ensuite, le livre 18e siècle qui va jeter l'opprobre sur la masturbation pendant 250 ans, c'est Onania d'un certain Martin, qui a été un best-seller à l'époque, où il est écrit « Le haineux péché d'autopollution et toutes ses terribles conséquences pour les deux sexes à tous ceux qui se sont déjà blessés avec cette pratique abominable. » Il disait que ça provoquait du priapisme, de la gonorrhée, d'où le chef-d'œuvre de Proust, Sodome et gonorrhée, de la toux, que ça rendait sourd. Et certains, pour soigner la masturbation, vendaient même des gouttes restauratrices persanes. Et par exemple, Rousseau dans l'Émile disait énormément de mal de la masturbation. Alors il était très hypocrite puisque dans les confessions, il passe son temps à se masturber. Il appelle même ça le dangereux supplément. Et il avait une théorie très étrange, il se disait « Jusqu'à 20 ans, vous avez le droit de vous masturber car vous n'avez pas besoin de toutes vos forces. Par contre, après 20 ans, ça va épuiser votre organisme, donc il faut plus se masturber après 20 ans. » On pourrait aussi parler...
C'est d'ailleurs une théorie qui continue.
Oui, c'est d'ailleurs une théorie qui continue, tout à fait.
J'entends encore, hein, donc... Bon, enfin...
Alors, il y en a un, par contre, qui s'était énormément masturbé. c'est le marquis de Sade à la Bastille. Il avait tenu les comptes 6000 fois en 2 ans, soit 6 fois par jour. À ce point-là, c'est la prise de la pastille. Il avait demandé même à sa femme un godemiché pour se masturber, dont il avait précisé le type et les mensurations, et il avait caché ses manuscrits à l'intérieur. Et une fois sorti de prison de la Bastille, il demandait à son valet de le masturber tout en lui donnant des coups de fouet. Il lui avait demandé 859 coups de fouet. Alors, au 19e siècle, la masturbation est toujours honnie. Par exemple, Wagner dit que le cause du délabrement de la santé Nietzsche, qui était devenu aveugle, c'était parce qu'il se branlait. Tout change au 20e siècle avec Freud. Et par exemple, j'ai retrouvé le mec de Jean Cocteau, en 1928, qui a écrit ça sur la sexualité de Jean Cocteau. Tout petit, la première fois, la volupté lui coupa la parole et l'enfance. Les gouttes blanches étaient légères et graves comme le sang blanc du pavot. Alors, il était tellement ému, il eut une telle révolution en lui qu'il vit comme une fleur à la place de l'amour. Et même Mishima, l'écrivain japonais qui s'est fait, je sais pas où, qui s'est enfoncé un couteau dans le ventre, racontait qu'il avait un bien curieux jouet. Un jouet qui augmentait de volume en toute occasion, qui bien utilisé serait délicieux, mais dont le mode d'emploi n'était écrit nulle part. Ainsi, quand le jouet voulait jouer avec lui, il cédait à ce qu'il appelait son doux secret. Tout son être se mettait à trembler de joie. Ses reins gonflaient comme sous l'effet de la colère, ses mains commençaient un geste qu'il n'avait jamais appris nulle part, et un jeu de sais-quoi radieux et secret bondissait à l'attaque et jaillissait en provoquant un enivrement important.
C'est joliment écrit.
C'est très beau.
Ah oui, faut reconnaître, hein, Sophie. Oui.
Et alors même Marcel Proust, dans La Recherche du Temps Perdu, il y a une scène au tout début du côté de chez soi.
Il avait le temps. Hein,
il avait le temps, oui. La vie est trop courte et Proust est trop long, comme on dit.
C'est joli, oui, je suis bien d'accord.
Il s'enferme dans les toilettes pour lire, et là il y a une scène un peu bizarre où il dit qu'il y a une plante verte qui fait très humide et qu'il a comme une émotion qui perle telle comme une larme blanche. Et en fait, Marcel Proust est en train de se masturber au milieu d'une plante verte. Et même...
Ouais, ça l'arrose, hein.
Ça l'arrose, ouais.
C'est peut-être très bien, en plus, c'est peut-être très bien, en plus, pour la plante, je sais pas. C'est plein de vitamines, c'est plein... Enfin...
Et alors, Céline...
Bah oui, enfin...
C'est très... Et ça a le goût de ce qu'on mange. Il faut faire très attention, si on mange des poireaux, on a un sperme de mauvais goût.
Et surtout l'asperge. C'est la mode en ce moment, donc... c'est la mode de l'asperge, c'est la saison de l'asperge, pardon.
Alors enfin, il y avait Céline, célèbre pour son voyage au bout de l'anus, enfin de la nuit, pardon, qui racontait comment il demandait à sa femme de ramener des inconnus chez lui. Il était voyeur, il regardait à travers le Judas, vous allez dire, l'histoire dira qu'il s'y connaît en termes de Judas, et il se masturbait en regardant ces inconnus chez lui. Même Gide, dans les Faux-Bodayeurs, disait que se masturber, c'était faire de la magie. Alors, au fond, pour conclure, est-ce que tout écrivain n'est-il pas un masturbateur compulsif? Toute autofiction n'est-elle pas un exercice de branlette? Et tout jet de papier n'est-il pas une éjaculation? Merci
beaucoup. On va demander la réponse à la psy.
Oh, bah oui, dès qu'on écrit, dès qu'on parle, on jacule,
n'est-ce pas? Merci en tout
Merci
cas,
beaucoup,
Simon Collin. Et puis, c'est bien de réhabiliter la masturbation. Je rappelle également qu'on peut vous retrouver sur la chaîne YouTube dans votre émission Les Clochards Célestes.
Merci beaucoup.
Bonjour, Ahmed.
Ah oui, bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Merci, merci.
Le bonjour à votre invité aussi.
Bonjour,
Sophie Cadalène qui est avec nous.
Sophie Cadalène, j'ai oublié le nom.
C'est pas grave, on vous le redonne. Alors, merci. vous êtes pas du tout dans cette génération selfie, vous, hein, visiblement.
Non, complètement pas. D'autant plus que j'y trouverais même un côté un petit peu ridicule de temps en temps. C'est-à-dire, surtout quand ça devient un sens un peu narcissique, celui de justement de photographier toute sa vie et de la mettre dans les pages Facebook toute la journée. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Et donc, c'est pour ça que quand on m'a posé la question, c'était ma façon de voir les choses, et peut-être que c'est aussi dû à une certaine éducation, dans la mesure où je suis pas d'une génération, le portable est arrivé dans les années 90 à peu près, et mon adolescence n'a pas du tout baigné avec le téléphone portable.
Bien sûr. Mais vous avez des enfants?
Oui.
Alors peut-être que vos enfants, eux, sont un peu plus...
Ben, pas tellement. Enfin, j'ai une fille qui a 30 ans, un enfant, un autre qui a 6 ans. Lui, évidemment, il a 6 ans, donc c'est plus difficile pour lui. Mais même
ça viendra peut-être, hein.
Ah non, mais ça, je l'imagine totalement. Et puis, il faut faire avec l'air du temps et prendre les choses comme elles sont, puisque ça fait partie d'une évolution sociétale. Donc, de ce point de vue-là, j'imagine totalement. D'ailleurs, j'ai une analyse un peu plus approfondie quand je vois mes nièces, qui, elles sont justement de la puissance totale, et puisqu'on a une quinzaine, c'est 17 ans, et vraiment, leur vie est basée là-dessus, et on peut que le comprendre, puisque nous vivons dans une société aujourd'hui où je pense qu'on a on a un petit peu, comment dire, je pense qu'on a un petit peu le fait qu'il y ait les téléréalités, tout ce genre de choses font que tout le monde veut devenir une petite star, et le fait de
Oui, mais là, vous faites une analyse tout à fait juste, Ahmed. C'est vrai que la télé-réalité qui remonte au début des années 90, hein, les tout premiers, a montré que tout le monde pouvait devenir, pouvait devenir une star, entre guillemets.
A montré ou a fait croire.
Oui, bien sûr, Sophie. Bien sûr,
a fait croire, et c'est totalement le terme.
Parce que finalement, il n'en reste pas beaucoup.
Hein, oui.
Mais ça a donné l'impression, parce que, vu à la télé, ça reste encore quelque chose qui parle à tout le monde. Hein. Mm. Bientôt, ce sera vu sur les réseaux sociaux, on est d'accord, mais pour l'instant, c'est encore vu à la télé.
Pour les jeunes générations, c'est vu sur les réseaux sociaux, oui.
Ah oui, totalement, totalement. Moi, je connais une personne qui en est devenue complètement narcissique, et on pourrait même dire prétentieuse, puisque c'est moindre sortie au restaurant, filme ses plats, met ça en ce qu'ils appellent la story.
C'est drôle, oui, vous dites prétentieuse, oui, oui.
Je trouve que c'est de la prétention.
Pourquoi pas, on peut penser ça, bien sûr. Enfin, c'est vrai que moi, je ne vois pas l'intérêt de photographier son plat quand on est au restaurant, ça, je vous l'accorde. Et si je suis avec quelqu'un à dîner et qui se met à photographier ses plats, j'aurais réellement l'impression de ne pas être avec lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, mais...
Ah, je suis très perplexe. Alors, quelquefois, effectivement, ça fait partie aussi
C'est beau. C'est vrai que parfois, c'est très beau, mais
oui,
bon,
ça va. Entre le plat qu'on photographie parce qu'on veut faire parler d'un resto, parce qu'on a particulièrement aimé cette cuisine-là, bon, voilà, ça fait partie, encore une fois, des outils de diffusion et de recommandation, mais le systématisme, et il y en a, effectivement, qui est le systématisme de photographier tous ces plats, de les diffuser, c'est pas toujours ragoûtant, en plus. Oui, ça me rend tout à fait perplexe. C'est, voilà, on est là pour être là, pour en profiter, on est là pour montrer aux autres qu'on était là.
C'est ça.
Et encore une fois, trop d'importance donnée au regard des autres et une vie qu'on leur donne en pâture.
D'autant plus que ce n'est pas du tout dans un but de rendre service au restaurateur ou dans un but de lui faire une quelconque publicité. C'est dans le but de se faire sa propre publicité pour dire que je suis vivant. Donc si on a besoin de montrer qu'on est vivant, ça prouve bien que notre vie réelle n'a pas trop de sens, parce qu'on n'a pas, à mon sens, hein, j'ai pas besoin de prouver aux gens que j'existe par le fait de présenter mes sorties.
Oui, et puis il y a autre chose aussi, vous avez raison, hein, Ahmed, mais il y a autre chose aussi, c'est que si on est, par exemple, au restaurant, et qu'on commence à sortir son téléphone pour photographier le plat, ça veut déjà dire qu'on n'est pas dans l'instant présent, c'est qu'on est déjà dans le fait de se projeter dans quelque chose qu'on va pouvoir montrer, et qui n'est finalement pas son rapport à soi. Et il me semble que la nourriture, c'est un peu comme la sexualité, c'est quelque chose de rapport au plaisir, et qu'il faut surtout pas gâcher par autre chose, enfin.
C'est totalement ça. Je vous suis totalement dans votre façon de penser, parce que c'est moi personnellement, j'aurais du mal à bon, heureusement, je fréquente pas trop de ce genre de personnes là qui passent leur temps à photographier toute leur vie et surtout à les diffuser sur tous les réseaux sociaux. Mais je sais que j'aurais du mal à fréquenter quelqu'un qui passerait son temps à faire ça. Quoi. Ça me gênerait un peu. Parce que j'aurais l'impression que la personne ne vit que par une certaine illusion. Sa vie ne serait qu'une illusion. En fait, c'est présenter aux autres, mais pas vivre réellement ce que vivre pour soi. C'est vivre pour les autres, c'est-à-dire avoir le fantasme de la célébrité. Hein. Et justement, d'ailleurs, les gens célèbres cherchent la confidence de la vie privée. Donc c'est là où il y a un antagonisme.
Oui, enfin, pas tous, hein. Il y a quand même quelques personnes célèbres qui adorent être sur les réseaux sociaux et qui multiplient leurs tweets, hein. Mais dans l'ensemble, oui, ce que vous dites est tout à fait juste. Bah, écoutez, merci de ce témoignage, Ahmed. Merci beaucoup.
Et bien avec plaisir.
Une petite pause et on se retrouve dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Sophie Cadalen est avec nous, vous êtes psychanalyste et on évoque donc les réseaux sociaux. Mélissa, merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Sophie.
Bonjour. Alors vous avez été beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, Mélissa, justement, et vous avez envie de témoigner parce que justement vous en êtes un peu éloignée. Alors racontez-nous.
En fait, il y a de ça quelques mois, je me suis rendu compte que diffuser sa vie comme ça constamment sur les réseaux sociaux ne servait qu'à montrer ce que l'on voulait nous avoir comme idée de nous-mêmes. C'est-à-dire que j'étais du genre à poster des photos dès que j'allais au restaurant, dès que je sortais, même si des fois je restais chez moi, je m'envoyais des selfies histoire de montrer que j'avais un semblant de vie, alors qu'en vrai, je n'allais pas si bien que ça. Et c'est vrai que depuis janvier maintenant que je vois un psychologue et que j'ai décidé de faire face au fait que je n'allais pas forcément bien, je me suis complètement désintéressée de cette manière de mettre à chaque fois sa vie en lumière avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à profiter de l'instant présent, à juste apprécier les moments que j'ai sans forcément publier.
Avoir besoin de les transmettre aux autres. C'est intéressant, c'est parce que vous l'avez dit, hein, c'est le fait de rencontrer une femme qui est thérapeute qui vous a fait prendre conscience de ça, mais peut-être que c'est son regard à elle qui vous a permis justement de vous poser. Hein, parce qu'au fond, ça remplit du vide les réseaux sociaux, mais ça ne permet pas de se poser, tandis que votre psy vous a certainement aidé à comprendre pourquoi vous faisiez ça et à vous poser. Enfin, il me semble. Hein.
Oui, exactement. Et puis, chose aussi qui est sûrement intéressante à savoir, c'est que durant ces mois-ci aussi, j'ai rencontré quelqu'un et je pense que ça a aussi joué dans le fait que je n'avais plus besoin de montrer ce que je faisais dans le but d'intéresser les autres, puisque j'avais l'impression et j'ai l'impression de susciter de l'intérêt pour l'homme que je fréquente depuis peu. Et du coup, je pense que ça aussi, ça joue un rôle.
Oui, ça remplit aussi votre vie privée, bien sûr.
Oui, mais Mélissa, il me semble que vous le dites bien en filigrane de votre intervention. C'est finalement ce qu'on montre, c'est rien. Enfin, c'est rien. Dans le sens, c'est pas vraiment notre vie. C'est ce qu'on aimerait que notre vie soit. C'est ce qu'on aimerait que les autres en voient ou en tout cas en pensent. D'abord, on n'en sait rien ce qu'ils en pensent.
Oui.
Mais ce qu'on montre en fait, en tout cas ce que ces façons de fonctionner montrent, c'est toujours les mêmes choses en fait. Ça ne dit rien de nous, ça ne dit rien de la vie qu'on a, ça semble faire croire que c'est très occupé, que c'est très agité, c'est très mouvementé et très réjoui, mais c'est très plat au sens de bah, ça ne parle pas d'amour, ça ne parle pas de nos soucis aussi, ça ne parle pas de nos doutes, ça ne parle pas de notre intimité, de nos temps de calme, de tout ce qui fait notre vie et qui ne se raconte pas au fond, et qui peut-être se partage sûrement mieux avec un homme, celui que vous avez rencontré là.
Oui, exactement.
Oui, parce qu'au fond, c'est pas parce qu'on va envoyer quelque chose qu'on va avoir une réponse non plus. Et je crois que c'est ça aussi le danger des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on fait finalement on envoie un SOS, si je puis dire, mais il part dans la mer, quoi. Il part dans l'océan et il n'y a pas grand-chose qui nous revient. Et qu'est-ce que c'est que l'être humain si ce n'est un être qui a besoin de liens? Sauf qu'un lien, c'est avec un retour, quoi.
Oui.
Ouais, en même temps, si ça peut revenir, tous ces likes, toutes ces choses qui disent, tous ces j'aime, tous ces waouh, super, waouh, t'es trop belle, enfin, tous ces commentaires, c'est souvent un peu les mêmes. Hein. C'est du faux lien, en fait.
Ben oui.
Parce que ce qui nous revient, c'est finalement ce qu'on a voulu qu'il nous revienne, mais qui, en tout cas, j'y sais rien. C'est, je vous
mais
comme
bien
je...
Pour, c'est bien pour ça ouais. qu'on envoie que des choses bien. Ouais. On envoie le plat au restaurant qui est très joli, oui. etc. Et on n'envoie pas sa gueule de bois le lendemain matin, ou alors avec plein de filtres.
Voilà. Ou alors en faisant genre, oh là là, qu'est-ce que c'était bien ma soirée, oh, t'as vu ma tête aujourd'hui. Mais il y a un côté, oui, il n'y a pas ce lien dont vous parlez, Brigitte, c'est que. On s'envoie joli, on nous répond « Ah, qu'est-ce que t'es joli ?» On envoie un plat « Oh, qu'est-ce que ça a l'air bon ?» On envoie une photo de soirée « Ah, qu'est-ce que tu t'amuses ?» Rien ne se dit. Rien ne se dit de pourquoi on est là, de qu'est-ce qui se passe. Et puis surtout, on ne vit pas le moment, puisqu'on le montre. Donc c'est effectivement une demande de retour et qui ne va rien apaiser. Parce que oui, les autres nous disent « Ouais, t'es jolie ». Puis quelques-uns ils nous disent « Rien ». Alors ça nous détruit, ça, parce qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce que j'entends aussi parler sous le divan ? Des toutes les non-réponses, alors, qui sont peut-être les plus bruyantes d'ailleurs.
Ça, vous avez raison, parce que quand on nous envoie des choses par WhatsApp, par exemple, moi j'ai quelqu'un de proche qui m'a dit « Ouais, moi je t'envoie des trucs par WhatsApp, mais tu réponds jamais, etc. » Alors, je veux dire, si on me les envoie pour que je réponde, ne me les envoyez plus, quoi. Enfin, oui. Voyez ce que je veux dire. Parfois, c'est très drôle, d'accord, mais enfin, bon, on va pas répondre à chaque fois qu'on nous envoie un truc par WhatsApp. Enfin, en tout cas, voyez ce que je veux dire. C'est bien là où on voit que finalement, c'est pas gratuit. On envoie quelque chose pour avoir du retour, quoi.
Oui, avec des espèces de règles imaginaires qui se décident. J'avais entendu ça aussi. Une patiente qui a raconté quelqu'un qui lui avait dit « Non, mais un SMS... » On doit y répondre dans les 10 secondes.
Ah bah oui, parce qu'on est toujours avec son téléphone à la main, c'est bien connu.
Alors pour le coup, elle avait répondu oui, enfin des fois on imagine qu'on peut travailler quand même quelques fois, qu'on a autre chose à faire, mais c'est intéressant justement cette espèce de nouvelle codification, mais finalement tout à fait personnelle et tout à fait imaginaire.
En tout cas, Mélissa, face à votre psy, vous avez eu du lien, et puis avec votre copain, votre nouveau copain, vous avez du lien.
Oui.
Et c'est peut-être ça qui vous a aidé à vous éloigner des réseaux sociaux.
Je pense, oui. Mais j'avais besoin de ça, de toute façon. Comme vous le disiez tout à l'heure, le pire, c'est, je pense, le fait de ne pas avoir forcément de retour par rapport à ce qui est envoyé. Ça en devenait frustrant, en fait. Et je me disais, bon, bah, que personne ne s'intéresse à ce que je fais. On s'en fout de moi. Donc, au final, j'avais l'impression d'être encore plus dans ma solitude, en fait.
Oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on on envoie un SOS. Et comme on n'a pas de réponse, on est encore plus perdu. Et du coup, on en envoie encore plus.
Et c'est comme une espèce d'agitation qui ne trouverait pas de public. Ou un public à qui, voilà, il y a toujours les mêmes qui disent toujours « Ah, super, c'est génial, c'est chouette. » Mais c'est d'autres qu'on veut atteindre. C'est un public plus large qu'on veut toucher. C'est celui peut-être qu'on ne connaît pas encore, qu'on veut alors rencontrer. Et celui-là, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est de l'agitation, effectivement, qui nous renvoie à notre immense solitude.
Eh bien, Mélissa, merci de ce témoignage qui est très important parce que ça montre bien qu'on peut, on peut s'en sortir hein, de tout ça, mais faut-il d'abord prendre conscience que c'est quelque chose qui montre qu'il y a du vide et que c'est pas comme ça qu'on peut le remplir. Et là, visiblement, vous avez fait les bonnes démarches. Merci. Merci beaucoup,
merci
Mélissa.
À vous.
Merci. On va continuer avec le Love Conseil. Comment deviner ce que désire notre partenaire ? Je sais que vous êtes très branchée sur le désir, Sophie Cadalen, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce Love Conseil pour vous.
Sud Radio Brigitte Lahaye, le Love Conseil.
Alors, Sophie Cadalen, devinez les désirs de l'autre. Voilà un vaste sujet et peut-être qu'on n'aura pas assez de ce qui reste comme temps dans l'émission pour l'évoquer. Bref, en tout cas, vous êtes d'accord, le réflexe premier chez la plupart d'entre nous, c'est d'imaginer que ce qu'on aime va plaire à notre partenaire. Et ça, c'est évidemment valable également sexuellement. Et puis, peut-être, avec le temps, on apprend à faire la part des choses. Et je crois qu'il y a vraiment une règle en ce qui concerne la sexualité, c'est mélanger subtilement égoïsme et altruisme. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, tout à fait d'accord.
N'est-ce pas ? Donc, en quelque sorte, on doit se concentrer sur notre propre plaisir, mais il faut rester réceptif à celui du partenaire. Et c'est ce juste équilibre qui va peut-être permettre une harmonie sexuelle. Donc, voilà quelques clés pour vous aider à deviner ce que désire l'autre. Ne pas penser à sa place donc ne pas lui prêter les désirs qu'on aimerait qu'il ait. Hein. Ouvrir forcément le dialogue, alors pas des longs discours à froid, hein, mais moi je suis plutôt pour chuchoter dans le feu de l'action, voilà. Oser des fantaisies sexuelles, mais accepter qu'il puisse ou qu'elle puisse dire non. Mmh. Mais ça, c'est pas toujours simple. Hein. Si elle vous dit non à votre fantaisie sexuelle, elle ne vous dit pas non à vous. Ne pas confondre. On peut dire non, j'ai pas envie de sodomie. Ça veut pas dire que j'ai pas envie que tu me fasses l'amour. Hein. Mmh. C'est pas la même chose. Ensuite, laissez-vous emporter par votre plaisir et puis observez votre partenaire. Et puis de temps en temps, assurez-vous qu'il est bien, il ou elle est bien avec vous. Et puis laissez-lui aussi une part d'initiative. Mmh. Parce que ça, c'est aussi dans la sexualité, j'ai remarqué, il y en a souvent un qui domine, qui impose un peu ses scénarios, et puis l'autre qui accepte tout. C'est pas un bon équilibre non plus, ça.
Mmh. Oui, et puis il y a tout ce cheminement des corps, des mains, des bouches, des peaux. On essaye des choses, on essaye, c'est tout le jeu subtil de est-ce que ça réagit, est-ce que ça dit oui. Et puis, comme vous dites très justement, des fois ça dit non, il faut l'entendre.
Voilà, c'est ça qui est difficile, mais il faut aussi savoir le dire, le non. Mmh. Et c'est un peu le défaut de certaines personnes qui ont peur de dire non, parce qu'elles ont peur de déplaire, de froisser, etc., de blesser, etc. Mmh. Demain, on sera avec Christophe Médici, on parlera des 5 langages de l'amour, parce qu'il y a évidemment le « je t'aime », mais il y a aussi les services rendus, les compliments, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour dire « je t'aime ». Bonjour Mathilde.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour Mathilde.
Merci de réagir. C'est aussi une de vos nièces hein, qui envoie des selfies, c'est ça ?
Ah oui, alors j'en ai plein autour de moi et j'ai surtout aussi une amie qui part embaucher le matin, toujours avec la même prise de vue, toujours avec le même angle. Et donc c'est vraiment un selfie d'elle-même qu'elle poste en fait sur les réseaux sociaux. Comme si en fait il fallait
pour prouver qu'elle s'est levée.
Voilà. Je pense surtout que voilà pour la connaître, je pense qu'il y a quand même un fond de mécanisme où le manque de confiance qu'elle a en elle ou le manque d'entrain qu'elle a en elle, en tout cas d'estime pour se dire voilà je vais travailler tout simplement, je suis concentrée dans mon travail, passe par cet intermédiaire de je renvoie cette image, je vais recevoir mon nombre de cœurs, bonjour, de bisous et tout ce qu'on veut et ça va m'aider du coup à aller de l'avant en fait. Mmh.
Cela dit Mathilde, je crois qu'il y a quand même chez beaucoup de personnes une toute petite déprime au moment de se lever. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Sophie Cadalène, mais il y a des gens qui évidemment se lèvent et sont contents de se lever et savent ce qu'ils vont faire de leur journée et sont heureux de. Mais il y a comme ça des gens qui ont du mal à sortir du lit parce qu'ils n'ont pas cette petite énergie de vie, ce désir de commencer leur journée. Hein.
Oui, la sortie de l'inconscience du sommeil n'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup en psychanalyse. Ce petit moment où on n'a pas encore pris totalement pied dans le conscient. Et c'est peut-être le moment aussi très révélateur de est-ce que notre vie nous va? Est-ce que rentrer dans cette vie-là nous réjouit tant que ça? Et ça nous réjouit pas toujours. Et c'est ça qui t'a interrogé. Si on a envie de s'y pencher.
Oui, et donc cette femme qui, le matin, premier geste presque qu'elle fait, c'est d'envoyer son selfie, c'est pas anodin.
En fait, elle le fait, mais complètement, je suis complètement d'accord avec vous, et elle le fait pour tout. Donc ça fait partie de... Et c'est là où je trouve qu'effectivement la société est devenue hyper narcissique, parce que tout va passer par l'image. Ce qui ne passe plus par des mots passe par l'image. Donc à mon sens, donc elle le fait pour tout. Donc à la moindre, si vous voulez, chose, j'ai perdu un kilo, j'ai fait une tarte aux fraises, je suis sortie samedi soir...
Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, vous mettez sur le même plan, j'ai perdu un kilo et j'ai fait une tarte aux fraises. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est tout, ça n'a plus de sens, quoi.
Mais oui, complètement, parce que, si vous voulez, l'idée, c'est que derrière ça, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Et à mon sens, je pense que, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 30 likes sur une tarte aux fraises? Au final, est-ce qu'on peut pas se satisfaire par nous-mêmes, en fait, tout simplement, de se dire, ben voilà, je suis heureuse de moi, j'ai fait une bonne petite tarte, je vais la goûter ce soir, ou de l'entourage proche. Mon mari qui me dirait, ben écoute, chérie, ta tarte aux fraises, tu l'as bien réussi, peut suffire. Pourquoi toujours, en fait, exposer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit? Il y a une part, en fait, très...
Non, mais en plus, enfin, je sais pas, cette tarte aux fraises, on l'a fait parce qu'on reçoit du monde, ou pour son mari, comme vous dites, mais on la fait pas pour la montrer à des gens qui ne pourront pas y goûter, enfin, c'est...
C'est ça, et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une part un peu infantile là-dedans, comme s'il fallait toujours que ce soit validé par un peu la communauté. Là,
par maman, là, oui, très juste.
Voilà,
oui.
Il y a une part infantile un peu, ça va, là, ce que j'ai fait là, c'est bien, je suis assez bien.
Oui, c'est pour ça, moi j'hésite à parler réellement, enfin en tout cas complètement de narcissisme à cet endroit-là. Vous avez utilisé un mot très très juste, c'est plutôt de validation dont il est question, plutôt d'immaturité, parce qu'être grand, c'est ça, c'est qu'on assume sa vie, on fait ses choix, on va où on a envie d'aller, on n'a pas besoin de demander l'autorisation, ni l'approbation de tout le monde. Et c'est pourquoi, voilà, il y a plus de narcissisme au bon sens du terme, à se dire de soi à soi, oh tiens, j'ai fait une bonne tarte aux fraises, je vais régaler mes invités, et on n'a pas besoin d'en faire l'annonce à la terre entière. Et dans le fait de montrer tout, là, je vois pas tant le narcissisme que quelque chose finalement de très infantile. On tient pas tout seul, on tient pas sans les retours et les likes, ils nous disent, ah, c'est bien ce que tu fais, ma chérie. Comme on dit aux enfants, pour justement les aider à se constituer un narcissisme qui va les aider dans la vie à se débrouiller tout seul.
Et c'est pour ça qu'à la limite, c'est assez compréhensible pour des adolescents qui ont 14, 15 ans, 16 ans. Mais si votre... Enfin, la femme dont vous parlez, Mathilde, elle est adulte. Enfin, elle devrait être adulte.
Oui, elle a une trentaine d'années.
Oui, donc ça traduit bien quelque chose qui n'est pas fini.
Mais à mon sens, si vous voulez, ça part de cet ordre-là. Il y a quelque chose où, à un moment donné, cet équilibre de narcissisme, parce qu'à mon sens, il en faut, voilà. Dès qu'on est dans l'excès, c'est-à-dire qu'il m'en manque de trop, ou alors j'en ai beaucoup trop, à un moment donné, finit par dévier. Et ça, tant que cette équation-là n'est pas résolue, on se retrouve dans les travers. Parce que, par exemple, j'en connais d'autres aussi, où alors systématiquement, tout ce qu'ils font est sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont les meilleurs et que c'est formidable, et que ça sert.
Oui, mais ça c'est souvent un manque d'estime de soi qu'on essaie de renforcer comme ça en se le prouvant déjà à soi-même, en se le disant à soi-même, mais personne n'est dupe. Hein.
Oui, plus on le claironne, je dirais, plus la fragilité est évidente. Oui, ils ont l'air comme ça apparemment très, très conquérants, très vaillants, très sûrs d'eux-mêmes. Mais encore une fois, à partir du moment où on demande aux autres de nous approuver, de nous applaudir, de vérifier, en tout cas de valider ce terme que vous avez utilisé qui est très juste, que c'est vraiment très, 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 très bien ce qu'on fait, on n'est pas si sûr que ça. On tient pas si debout que ça et tout seul.
C'est ça, comme par exemple aussi ceux qui étalent en permanence une certaine forme de richesse. J'ai changé de voiture, et puis la semaine dernière j'étais en Thaïlande, et puis vous voyez, c'est ce côté toujours un peu, ne serait-ce que le modèle des
stars. Vous avez raison, parler beaucoup d'argent, c'est jamais anodin non plus.
Oui.
Si on a besoin de parler beaucoup d'argent, c'est bien pour montrer qu'on a de la valeur. Hein.
Voilà, donc il y a vraiment, à mon sens, ce déséquilibre-là, mais qui ne peut être engrainé que parce qu'il y a aussi ce public en face qui est là en permanence à liker pour un oui, pour un non, à partager, je ne sais quoi, les vidéos courtes.
Mais vous avez raison, la question qu'on peut vous poser, Sophie Gadalen, c'est ceux qui répondent, les likes, etc., quel est leur intérêt, pourquoi, enfin, je veux dire, c'est pareil, ils sont quand même aussi vides, non? Enfin.
Oui, alors je dégagerai deux grandes tendances. Il y a ceux qui font la même chose. Donc, comme ils ont envie qu'on les like aussi, qu'on les petits cœurs et qu'on leur dise c'est formidable, bah ils le font aussi pour les autres, parce que voilà, si on en veut plein, on en fait plein aussi aux autres. C'est une façon de se convoquer les uns les autres. Et puis il y a aussi tous ceux, et ils sont très nombreux, qui se sentent obligés. Vous parliez de votre connaissance qui vous dit oui, tu me réponds pas quand je t'envoie un message WhatsApp. C'est une forme de force, finalement, d'autonomie, de dégagement, justement, par rapport au regard et aux attentes des autres, que de dire « Oui, bah, tu m'as envoyé un truc, super, très bien. Je ne suis pas obligée de te répondre. » Et beaucoup ne s'autorisent pas à ne pas répondre.
Ah oui. Mais pourquoi ils s'obligent à répondre, enfin,
c'est très compliqué de se dégager de cette demande. On baigne dedans. Voilà, les parents nous ont demandé d'être gentils, et on veut être aimé, on veut pas déplaire, on veut pas s'affirmer parce que qu'est-ce que ça dit en filigrane sans agressivité? On répond pas, on réagit pas, ça dit tranquillement je n'en ai rien à faire. Voilà. Ça dit pas t'es débile, c'est pas une bordée d'insultes. Ça dit juste voilà. D'ailleurs le terme le dit, ça ne me regarde pas. Je ne te regarde pas. Et c'est pas insultant, mais c'est s'affirmer par rapport à quelqu'un qui est dans son trip, dans son imaginaire, et lui dire bah moi j'y participe pas. Et on a beaucoup de mal. Beaucoup de relations sont construites sur le fait on répond à cette attente, on répond à cette demande pour ne pas froisser, pour être aimé, encore une fois. Et on se retrouve coincé dans des demandes qu'on veut satisfaire, en oubliant ce qu'on veut vraiment.
Et moi, je sais que le message que je voudrais faire passer, surtout à l'émission, c'est qu'il existe, en fait, la possibilité de faire autrement. Moi, par exemple, je préfère le contact humain. Je suis convaincue que, de toute façon, on est constitué de 5 sens. Donc, autant qu'on les respecte pas, à un moment donné, ça ne va pas aller. Donc, j'ai besoin d'avoir le visuel, le toucher, le son. Vous voyez, j'ai besoin d'avoir tout ça. Est-ce que je ne peux pas faire...
L'odeur, parfois, on s'en passe, Mathilde.
Je vous l'accorde aussi. mais de fait, quelque part, eh bien, pour quand même pouvoir communiquer avec certains de mon entourage, ça passe par les réseaux sociaux. Donc j'en ai, mais en revanche, j'en suis absolument pas quelque part esclave ni dépendant. Je peux tout à fait avoir vu effectivement sur les réseaux sociaux 30 publications d'un proche, et puis à un moment donné, quand je veux prendre de ses nouvelles, tout simplement lui passer un coup de fil ou passer à l'improviste et boire le café. Vous voyez, je vais en fait arriver à me dégager de ça.
Oui, mais vous avez raison. L'autre jour, j'ai appelé quelqu'un parce qu'il m'avait envoyé un SMS très long et qu'il aurait fallu que je réponde à un SMS très long. Et donc, je me suis dit, mince, j'ai pas la patience. Et donc, j'avais pas son mail, donc je l'ai appelé. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Parce que le SMS, sincèrement, il était très très long. Il m'a dit, j'avais peur de te déranger. Et c'est finalement ce que je trouve très dommage aussi, c'est que on a peur maintenant d'appeler les gens, on a peur de les déranger. Alors moi, si on m'appelle entre 14h et 16h, de toute façon, je suis à la radio, il faudra faire le 0826-300-300, mais sinon, enfin, si c'est des gens qu'on aime, ils ne nous dérangent pas, ou s'ils nous dérangent, on ne répondra pas, enfin, je ne sais pas. On a l'impression qu'on a complètement faussé nos relations. Enfin, il y a quelque chose qui, moi, me... Alors, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, mais vous voyez ce que je veux dire, Mathilde, Sophie?
Alors, en même temps, il y a ceux aussi, ils ne sont pas rares, pour qui, effectivement, le téléphone était très agressif. Ceux-là, ils trouvent leur compte. Maintenant, j'ai envie de dire, soyons pas manichéens non plus. Il y a aussi des façons de s'exprimer sur ces réseaux qui est vraiment intéressante. Il y a de la création, il y a de l'intelligence aussi, il y a de l'innovation, il y a du poil à gratter, enfin, il y a des choses. Mais ce qui est extrêmement suspect, ce dont on parle à l'instant, c'est ce besoin de retour, ce besoin d'amour, ce besoin de dire, ah, c'est bien, pour des choses tout à fait vaines. Parce que je crois que plus c'est vain, plus c'est inintéressant, plus c'est quotidien, enfin quotidien, le quotidien est formidable, hein, sauf que c'est le nôtre de quotidien, on n'a pas besoin de le hurler sous tous les toits. Plus on a besoin de faire valoir effectivement sa vie et d'avoir des retours sur cette vie-là, c'est ça qui est suspect. Cette demande, ce rapport à l'autre, effectivement qui nous aliène les uns aux autres et qui nous empêche d'être peut-être effectivement dans la spontanéité, dans la simplicité du tien. On va se raconter des choses et on va s'appeler.
Mais oui. En tout cas, merci Mathilde de votre témoignage. Je crois que cette émission va permettre à chacun d'entre nous de faire un peu le bilan de sa relation à tout ça. Et peut-être que pour certains, ça sera une bonne manière de réajuster un peu mieux son lien aux autres. En tout cas, vous, Mathilde, je pense que tout va bien. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous, en tout cas. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant pour conclure cette émission au 0826-300-300.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Sophie Cadalen est avec nous et je crois que vous aviez écrit un livre sur le narcissisme d'ailleurs, non ?
Non.
Sur l'ambition alors.
La belle ambition, oui. Oui. Qui peut être valorisée un certain narcissisme d'ailleurs.
On est bien d'accord, absolument. Et justement, le narcissisme, on va conclure avec vous Lionel, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Sophie Cadalen, elle est très narcissique, alors si vous ne dites pas son prénom...
Et je me suis retenue, hein, j'ai pas crié, j'ai pas hurlé, je me suis pas roulé par terre.
C'est ça. Ah ouais, le narcissisme, pour moi, j'ai bien écouté l'émission, mais c'est vrai que c'est aussi un phénomène de société et qui est aussi lié aux moyens technologiques qu'on a entre les mains. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, avec votre Polaroid, c'était compliqué de demander en fait de photographier votre plat quand vous alliez au restaurant, ou photographier la piscine, ou photographier...
Non, mais c'était vachement compliqué. Déjà, on n'avait pas de photo, on n'avait pas d'appareil sur soi les trois quarts du temps.
Donc en fait, et puis vous n'alliez pas non plus... voilà. C'est-à-dire que quand vous alliez à Palavas-les-Flots en vacances, vous preniez en photo, le temps d'envoyer par carte postale à tout le monde...
Moi, j'allais à Cannes, Lionel.
Non, mais... ah ben par contre là ça aurait valu le coup de recevoir une carte postale un petit peu sympa. Non mais c'est vrai que c'est aussi lié aux réseaux sociaux, c'est aussi lié à la technologie qu'on embarque tous dans notre poche. Faut jamais oublier que ça en fait vraiment partie. Et il y a aussi un point que qui me semble pas qui a été évoqué, mais c'est l'argent que ça représente tout ça. C'est-à-dire que moi je vois j'ai une fille qui a 15 ans, j'ai deux filles, j'ai une de 18 ans, une de 15 ans. Celle de 18 on a absolument rien à faire. Celle de 15 est très très, on va dire, très influencé par Insta, par les influenceurs, par...
Oui, et en fait, je pense que c'est vraiment cette génération-là qui baigne complètement dedans. Après, on verra bien, hein, moi j'ai pas, on verra bien ce que ça donnera pour, quand elles seront, cette génération-là aura 25-30 ans, hein. Mais je pense que cette génération-là, c'est vraiment la première génération qui est très 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 marquée par tout ça.
Mais c'est parce que ça génère énormément d'argent aussi, c'est-à-dire que ça fait rêver, c'est, vous voyez des mecs qui sont à Ibiza qui en branlent pas une de la journée, ils se prennent juste en photo avec une canette de coca ou de peu importe, et en fait avec ça ils font énormément d'argent, et en fait c'est complètement faussé parce que c'est pas du tout une réalité, mais il n'empêche que pour un gamin de 15 ans ça fait quand même rêver, cet argent facile,
les fameux blogueurs,
oui, vous refaites un petit peu, vous refaites un petit peu le visage, et regardez l'autre là qui a vendu l'eau de son bain à 1500 balles le flacon d'eau de son bain. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est aussi lié, encore une fois, voilà, à cet apport de technologie qu'on a et de tout ce monde que ça génère automatiquement, parce que vous êtes en contact avec des milliers de personnes instantanément.
Oui, mais ça, enfin, excusez-moi, voilà. Lionel, mais ça révèle quand même un petit problème de société, quand même, si on en est là à avoir envie d'acheter l'eau du bain de je ne sais qui. J'étais même pas au courant de cette histoire.
Après, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu, alors pas à une si grande échelle, parce qu'effectivement là, les moyens techniques viennent à notre secours ou viennent appuyer l'événement contre nous, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours eu ces excès d'idolâtrie? Parce que ça correspond aussi à quelque chose, d'avoir besoin de mettre des gens comme ça en effigie, de les hisser sur un piédestal, de les prendre comme modèles, de les déifier presque. Alors ça se faisait autrement, ça pouvait être les stars, certains personnages publics, enfin en tout cas, ou mythologiques. Mais là aussi, c'est une composante humaine. Je ne crois pas qu'on puisse dire simplement que c'est la société.
Certes, vous avez raison, mais sauf qu'avant, on allait mettre comme stars des acteurs de cinéma formidables, etc., et qui durait quand même, tandis que là je ne sais pas quelle est la personne qui a vendu son eau du bain, mais dans deux ans plus personne ne la connaît. Donc si vous voulez, il y a une consommation de, entre guillemets, de stars qui pour moi est très révélatrice d'une société qui ne va pas bien. On ne peut pas mettre star quelqu'un qui n'a aucun mérite, enfin je veux dire, si ce n'est d'être propre, et encore.
Ouais, mais les médias, c'est les médias aussi grande échelle qui font de ces gens des stars, parce que concrètement, cette fille, elle est déjà passée dans 50 000 émissions, parce que, encore une fois, elle a vendu l'eau de son bain, que ça a fait du buzz, et en fait,
ça, pour moi, c'est vraiment la télé-réalité des années 90 qui a commencé cette dérive-là. Alors, c'était vu à la télé, maintenant, c'est vu sur les réseaux sociaux, mais quelque part, c'est rien, on peut pas mettre star quelqu'un qui n'a rien fait de créatif ou d'extraordinaire, enfin me semble-t-il.
Oui, mais il n'empêche quand même, c'est ça que je veux dire, c'est que si ça marche, parce que ça marche, c'est ça qui est terrible, ça marche, ils n'ont pas finalement aussi réfléchi un peu qu'est-ce qu'ils ont de plus, une façon de se mettre en avant, de se mettre en scène, sans doute aussi tout le matériel, toute la machinerie derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça raconte aussi nous humains comme on est prêt à ça. Alors pas tous et pas tous dans la même mesure, mais comme l'idée, comme le petit phare comme ça de quelqu'un qui réussirait avec pas grand-chose, avec son bagou, avec sa belle tête, avec comme on est aussi, en tout cas très prêt, effectivement vous avez raison, peut-être à l'adolescence encore plus, et c'est plus grave quand on vieillit, prêt à foncer dans le miroir aux alouettes avec la promesse que si eux y arrivent, mais pourquoi pas nous ? Sans se poser la question, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je mets en œuvre pour y arriver ? Comment je m'assume moi ? Non, ah bah ce sera pareil, on sera beau pareil, on y arrivera peut-être un jour. Et on fait rien de sa vie la plupart du temps.
Mais c'est parce qu'ils ont en ligne de mire uniquement l'argent, en pensant que l'argent est la finalité.
Oui,
alors que l'argent n'est pas la finalité.
Je suis d'accord,
l'argent
avec vous,
est un
Lionel.
Outil. Et en fait, ils construisent rien du tout que, en fait, quelque chose qui puisse leur générer beaucoup d'argent, en pensant que ça va leur apporter une vie fabuleuse.
Mais vous savez, vous savez, Lionel, moi, j'ai vu beaucoup d'artistes qui ont, en effet, pour de l'argent, fait des choses pas forcément très créatives et qui ont fini par perdre la belle image qu'ils avaient. Je veux dire, si on fait les choses pour l'argent, c'est un moment ou un autre, on peut le payer très cher, oui.
Donc, ces jeunes là qui se prostituent à moitié sur OnlyFans ou sur des trucs comme ça, sur des plateformes pour adultes, et ces jeunes là qui des fois sont à peine majeurs réalisent pas que en fait il y a de grandes chances que ça leur poursuivre une grosse partie de leur vie derrière. Et effectivement, ils vont générer de l'argent. Effectivement, ils vont générer plus que n'importe quel emploi sur le même temps. Mais leur image, en fait, et même pour eux-mêmes, leur image esquintée va les poursuivre. Et inconsciemment, de toute façon, ça les a déjà abîmés, en fait. Donc, c'est de l'argent un peu facile. Et comme tout argent très facile à obtenir, il n'est jamais super propre. Et comme il n'est pas propre, vous n'en faites pas quelque chose de très glorieux à la fin. Mais bon, pour l'instant, on est comme ça, mais c'est aussi nouveau, c'est un phénomène nouveau. Hein.
Bah, essayons quand même de réveiller un peu tout le monde, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, dans ces deux heures. Sophie Cadalen, merci en tout cas de vos commentaires qui sont toujours dans le juste milieu, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, parce que je pense qu'il faut, vous avez raison, il ne faut pas diaboliser non plus les nouvelles technologies, mais il ne faut pas en devenir victime ou trop addict.
Et puis je crois faire confiance aussi à notre jeunesse qui
qui
va pas entièrement sombrer dans ces menaces là, dans ces tentations là, ce fantasme là. Non, ils sont pas bêtes, nos jeunes non plus. Alors peut-être qu'ils y vont, comme disait Mélissa, on y va et puis on en revient. On
oui,
a essayé.
Mais ça, je suis d'accord avec vous.
Il y en a beaucoup que ça n'intéresse pas, comme la fille de Lionel d'ailleurs,
n'est-ce pas? Non, mais moi je suis d'accord avec vous. J'ai toujours pensé que la jeunesse était beaucoup plus intelligente que nous vieux cons, on l'imagine. Merci beaucoup Sophie Cadalen. Alors j'attends votre prochain livre. Hein.
Bon, d'accord.
Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis. Tout de suite, vous retrouvez c'est votre avenir. Alors demain, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on est avec Christophe Médici, le créateur de la haute qualité relationnelle. On parlera de tout à fait autre chose, on parlera des 5 langages de l'amour. Alors, je les cite souvent et on les recitera demain en long, en large et en travers.